sur mon parcours personnel, Sœur Pascal vous fait croire que je suis une espèce de superwoman qui a en même temps élevé ses 6 enfants, exercé, etc. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. On s'est marié avec mon mari Gilles très jeune. On n'avait pas fini nos études ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais en train de faire mon stage d'interne de médecine et lui passait des concours. Et il y a eu toute une période, j'ai commencé par faire des remplacements de médecins généralistes, et après il y a eu toute une période où j'ai exercé en médecine du travail et qui a correspondu à la période où, de la naissance de mes enfants. Et donc c'était assez pratique parce que j'avais des horaires qui étaient très calqués sur les horaires d'école. Et c'est ça qui m'a permis d'exercer les premières années de la constitution de la famille. Et après, il y a eu une période différente où mes enfants étaient tous grands, tous à l'école, un peu plus autonomes. Ils avaient nettement moins besoin de moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté la médecine du travail. Je me suis formée en soins palliatifs et j'ai beaucoup plus travaillé en soins palliatifs que... Mais parce que j'en avais la disponibilité, j'aurais jamais pu faire le métier que je fais actuellement quand nos enfants étaient tout petits. Je dis ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes là parmi vous, et c'est important de savoir que je trouve que dans la vie d'une femme, il y a des phases différentes, et en tout cas dans les carrières de la santé, on a la chance de pouvoir moduler son temps de travail. C'est pas pareil dans l'entreprise, je sais pas comment c'est pour les scientifiques, mais en tout cas dans le monde de la santé, c'est quand même... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un peu mes temps de travail et puis me réorienter à une certaine période de ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette réorientation? C'est à la suite d'un événement familial. J'ai perdu un beau-frère, c'est-à-dire un frère de mon mari, qui est décédé dans une petite clinique au fin fond de l'Ardèche. Et en fait, ça se passait assez mal. Le traitement de la douleur était mal géré, il y a plusieurs choses qui n'étaient pas tellement bien prises en charge. Et donc j'ai appelé un médecin de Jeanne Garnier en lui disant « Mais vous, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous vous y prenez ?» Et je suis tombée sur un médecin très sympathique qui d'abord m'a donné des conseils que j'ai pu faire passer dans cette clinique et surtout qui m'a dit « Mais si ça vous intéresse, venez faire un stage chez nous. » Donc je suis allée faire un stage à Jeanne Garnier pendant une semaine et c'est vrai que j'ai été emballée et à ce moment-là j'ai décidé de me former. J'ai fait un diplôme universitaire de soins palliatifs qui durait 2 ans et après j'ai commencé à travailler à Jeanne Garnier. Voilà. Alors, cette période de la fin de vie, elle peut être plus ou moins longue. Chez nous, à Jeanne Garnier, il se trouve qu'elle est de plus en plus courte et qu'on garde les durées de séjour des patients sont de plus en plus brèves. Parce que je pense que les patients nous sont adressés de plus en plus tardivement par les oncologues. Je pense, je ne vois pas tellement d'autres raisons. Donc c'est un peu, on suit les patients pendant un temps très court qui va d'une journée à 1 ou 2 mois grand maximum. Les durées moyennes de séjour, c'est une quinzaine de jours à peu près. Donc c'est vraiment un tout petit temps de vie, mais qui est riche de toute une vie. Et ça, c'est quelque chose à avoir en tête et qui est important. C'est vraiment un temps, c'est comme un concentré de temps, c'est quand même un temps très dense. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est que vous avez pu constater qu'en France, on est les champions pour faire des lois. Je pense qu'on est quand même le seul pays qui a réussi à faire 4 lois, là, en l'espace de 15 ans. On a eu la première loi Kouchner en 1999, on a eu la deuxième loi Kouchner en 2002, on a eu la loi Leonetti en 2005, et puis là on vient d'avoir la loi Claeys-Leonetti. Alors toutes ces lois successives, elles donnent des droits aux patients. La façon d'exercer la médecine a quand même considérablement changé entre le moment où moi j'ai fait mes études de médecine et le moment où vous, vous faites vos études de médecine. Quand moi j'ai fait mes études de médecine, le patient, il avait rien à dire, hein. Le médecin, il décidait tout. Il faisait ses traitements et le patient, il n'avait pas son mot à dire. Bon, les choses ont considérablement changé et je pense que c'est quand même une très bonne chose. Mais ça présente quand même un gros inconvénient, c'est que le fait qu'on fasse ces lois successives, ça évite de penser... Alors, on fait des lois sur les droits des patients, mais pendant qu'on fait ces lois, on évite de parler des devoirs des bien portants. Et bon, ça me laisse toujours un peu... C'est vrai qu'on parle de lois, de droits, de choses comme ça, mais ça évite de parler des devoirs des bien portants vis-à-vis justement des personnes en fin de vie. Et par exemple, je suis un peu surprise, il existe un congé d'accompagnement, c'est-à-dire que les gens ont le droit de s'arrêter de travailler pendant 3 mois pour accompagner un proche en fin de vie. Et en fait, il y a vraiment très très peu de personnes qui profitent de ce congé d'accompagnement. Et je trouve ça dommage. Bon, alors sinon, vous savez un peu comment ça marche là, les équipes de soins palliatifs. Vous savez ce que c'est qu'une équipe de soins palliatifs? Non, pas vraiment. Une équipe de soins palliatifs, c'est une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'à Jeanne Garnier, il y a des aides-soignantes, des infirmières et des médecins. Il y a aussi des psychomotriciennes, il y a aussi des psychologues, et il y a aussi des kinés, et il y a aussi des assistantes sociales. En gros, c'est voilà, toutes ces professions-là sont représentées. Et le but de cette équipe, c'est de soulager les souffrances, pas seulement physiques, mais aussi psychiques, sociales et spirituelles, de patients qui sont en fin de vie, tout en sauvegardant leur dignité. Le mot dignité, enfin le terme de dignité est très important. Vous savez que c'est un terme qui est utilisé un peu à tort et à travers par les tenants des deux camps, c'est-à-dire par les défenseurs de la vie, comme par les tenants de l'euthanasie, par exemple les membres de la DMD, l'Association pour le droit de mourir, justement dans la dignité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous résume un peu ce qu'on fait et après je vous dirai les difficultés. Alors, d'abord, on essaye d'écouter les patients, vous me direz, ben, c'est quand même le minimum. On essaye d'écouter, de respecter et de reformuler. On essaye de rejoindre les personnes là où elles en sont et de ne pas projeter nos idées, nos désirs. On essaye d'écouter vraiment ce qui est difficile pour le patient. Ça veut dire qu'il faut être prêt à entendre des demandes qui sont parfois difficiles. Rejoindre les personnes là où elles en sont, ça fait, enfin, accompagner, ça veut dire marcher au pas de la personne. C'est un peu comme une marche en montagne. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Quand vous marchez avec quelqu'un, normalement, vous marchez à côté de lui, vous l'accompagnez. Vous n'êtes pas 500 mètres devant ou 500 mètres derrière. Les gens qui marchent 500 mètres devant, ben, ce n'est pas très agréable pour vous, parce que vous ne pouvez pas discuter avec eux, vous ne pouvez pas échanger, vous les voyez loin devant, ça vous fait perdre le moral parce que vous dites que vous n'arrivez pas à les suivre, et ceux qui sont loin derrière, ce n'est pas très intéressant non plus, parce qu'enfin, il faut les attendre, mais c'est compliqué aussi. Donc, rejoindre les personnes là où elles en sont, ça veut dire vraiment marcher à leur pas, ne pas anticiper ce qu'elles ont à dire, et vraiment être à leur écoute. Ça amène parfois à entendre des demandes difficiles, par exemple des demandes d'euthanasie ou des gens qui vous disent « j'ai envie que ça s'arrête, c'est insupportable ». Ça vous amène à entendre une grande ambivalence, c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui est très particulier aux patients en fin de vie. Ils peuvent exprimer, souvent ils savent très bien qu'ils s'acheminent vers leur décès, mais en même temps, à la fois ils sont conscients qu'ils vont décéder dans les semaines qui viennent, et en même temps, dans la même phrase quasiment, ils sont capables de vous faire des projets, de vous dire dans 6 mois je vais faire ci, ou l'année prochaine je vais faire ça. Ça surprend toujours beaucoup quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on est soignant, et c'est comme ça. Il y a vraiment une grande ambivalence de ces patients. Il faut savoir que le simple fait de pouvoir en quelque sorte déposer leur fardeau en d'autres mains, c'est vraiment important pour le patient et ça peut lui permettre de passer à autre chose. Le simple fait de pouvoir déposer sa souffrance, ça peut lui permettre d'avancer, de penser à autre chose et surtout d'avancer. Ce que je peux dire, c'est que notre qualité de présence et d'écoute, elle est vraiment plus précieuse que nos paroles qui sont souvent assez vaines. C'est difficile de savoir ce qu'ils vivent réellement. Ce chemin qui conduit à la mort est vraiment éminemment singulier et personnel. Et parfois, devant certaines souffrances, à part se taire et écouter, on n'a pas trop envie de parler, quoi. Alors ça, c'est écouter, c'est la première étape et c'est vraiment la plus importante. Ensuite, il faut, après avoir écouté, il faut informer. Alors informer, c'est la grande question de la vérité. Comme vous le savez, il ne faut ni cacher la vérité, ni la cracher, en quelque sorte. Donc il y a une espèce de tact à avoir vis-à-vis de cette vérité. Il y a certaines annonces qui sont difficiles. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai pas les annonces les plus difficiles à faire. Par exemple, c'est pas moi qui fais les annonces d'arrêt de chimiothérapie, c'est pas moi qui fais les annonces de diagnostic catastrophique. Il y a parfois des maladies pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Par exemple, je pense à une maladie qui s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie neurologique dégénérative. L'annonce de ce diagnostic, c'est une annonce de prise en charge palliative. Il y a zéro traitement. Ça, je pense que c'est une annonce pour un médecin, c'est vraiment extrêmement difficile. Annoncer un diagnostic à un patient en lui disant « vous avez cette maladie, mais en fait, on peut strictement rien faire pour vous », franchement, ça doit être très difficile. Nous, on n'a pas ce genre d'annonce. On voit des patients comme ça, atteints par ces maladies, mais ce n'est pas nous qui avons fait les annonces difficiles. Par contre, on a quand même des annonces qui sont difficiles à faire. Par exemple, il y a des patients qui nous demandent s'ils vont remonter la pente. Il y a des patients qui croient encore qu'ils vont pouvoir guérir, qui nous demandent s'ils vont pouvoir remarcher. Alors, j'aimerais bien pouvoir faire comme l'évangile là, d'aujourd'hui, pouvoir dire talitakoum et puis que la personne se lève et marche. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'on pense que, quand la personne vous demande « est-ce que je vais pouvoir remarcher ?» Une personne qui est grave à terre qui vous demande « est-ce que vous pensez que je vais pouvoir remarcher ?» C'est toujours assez difficile comme question. La tentation, c'est de dire « peut-être que vous allez réussir à reprendre des forces, peut-être que ça ira mieux. » Bon. La vérité, c'est qu'en fait, nous, on reçoit énormément de patients qui ont des cancers, et dans les cancers, la fonte musculaire, à partir d'un certain stade, elle est irrécupérable. Donc on sait que les patients, ils ne vont pas récupérer leurs muscles et ils ne vont pas pouvoir remarcher. Mais c'est quelque chose qui est difficile à dire. Il faut savoir que la demande d'information, elle varie beaucoup en fonction du stade d'évolution dans la maladie. Quand les patients ne sont pas trop avancés dans la maladie, en général, ils posent beaucoup de questions et ils demandent beaucoup d'informations. Ils font des recherches sur Internet. Ils sont vraiment en recherche d'informations. Quand ils avancent dans la maladie, en général, ils posent beaucoup moins de questions. Et moi, je suis frappée. Je quitte jamais une chambre sans demander aux patients « Est-ce que vous avez une... » Parce que nous, on leur pose des questions. « Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous êtes essoufflé ?» Enfin, on leur pose plein de questions. Et je ne quitte jamais la chambre sans avoir demandé aux patients « Est-ce que vous avez une question à me poser ?» Et le plus souvent, ils n'ont pas de questions à me poser. La demande d'information, elle se réduit vraiment au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Au sujet de l'information, il faut aussi être capable de dire qu'on ne sait pas. Alors, quand on est médecin, c'est assez difficile, parce qu'on a l'habitude, et pour vous scientifiques, c'est pareil, quand on a l'habitude de passer des concours, de passer des examens, comme ça, d'année en année, voire tous les 6 mois, voire tous les 3 mois, après, on a un peu pris l'habitude d'avoir réponse à tout, et on a une espèce de pression, il faut tout savoir, et il faut avoir une réponse, on a pris l'habitude de cocher des cases. Ben non, quand on est face à un patient, parfois il faut être capable de dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas la réponse. Par exemple, sur les demandes de pronostic, quand les patients me demandent est-ce que vous pensez que. Il y a des patients qui me demandent est-ce que vous pensez que j'en ai pour une semaine, que j'en ai pour un mois. Je ne donne jamais de réponse, jamais. D'abord, si j'en donne une, je suis sûre de me tromper. Donc, je ne donne pas de réponse, je dis que je ne sais pas. Parfois, il y a certaines questions, on n'a pas la réponse. Et donc, il faut avoir le courage de dire qu'on ne sait pas. Voilà, en toute simplicité. Et en général, ça se passe. Ils sont très contents de cette réponse. Alors ensuite, évidemment, on essaye d'agir quand même. Après avoir écouté ce qui est difficile pour eux, après avoir répondu à leurs questions, les avoir informés, on agit quand même. Alors la première chose qu'on nous demande, c'est de soulager les douleurs physiques. Soulager les douleurs physiques, en fait, c'est relativement facile. En tout cas, en unité de soins palliatifs, hein, parce qu'on est très bien formé à ça. On a une grande habitude du maniement des médicaments à base de morphine. Donc, pour nous, c'est pas très compliqué, ça. Ce qui est plus compliqué, c'est d'arriver à soulager les patients en maintenant toute leur vigilance. Ça, c'est plus compliqué. Ça demande parfois de changer de traitement, de moduler les doses. Il y a des patients qui sont très bien soulagés avec des toutes petites quantités de morphinique. Il y a d'autres patients pour lesquels il faut des doses beaucoup plus importantes. Il y a un rapport de quasiment quelques milligrammes à parfois un gramme ou même plus d'un gramme. C'est vraiment il y a une sensibilité individuelle qui est très importante. C'est ce qui est intéressant aussi, hein. Nous, ça nous demande de vraiment moduler les choses. Mais en gros, c'est pas la partie la plus difficile du métier, et en général, on y arrive très bien. Hein. C'est quelque chose d'évidemment essentiel, parce que tant qu'on n'a pas soulagé la douleur, tant que le patient il souffre, il est complètement focalisé sur sa douleur et il ne peut rien faire d'autre. Hein. Il ne peut rien régler d'autre. Il ne peut pas aller plus loin. Donc c'est vraiment la base du métier, ce qu'on nous demande. Ça me fait penser à un patient qui est arrivé à Jeanne Garnier qui exigeait une euthanasie dans les plus brefs délais. Vraiment à corps et à cri. C'est un patient qui avait un cancer de la prostate avec des métastases osseuses et il avait des douleurs osseuses liées à ces métastases. Et en fait, il a suffi de démarrer un petit traitement avec une toute petite quantité de morphine pour lui et des anti-inflammatoires. Et du jour au lendemain, il a été spectaculairement soulagé. Et donc, évidemment, il était très content. Et il a passé assez longtemps chez nous, presque 2 mois. Et pendant les 2 mois, il n'a pas arrêté de nous remercier de ne pas l'avoir écouté quand il nous faisait une demande d'euthanasie. Et il nous a dit, heureusement, il nous disait tous les jours, heureusement vous ne m'avez pas écouté quand je suis arrivée, parce que vraiment. Bon. Après, il y a la souffrance psychologique. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Autant la douleur physique, c'est plutôt facile, en tout cas Jeanne Garnier, autant la souffrance. Psychique, c'est beaucoup plus compliqué et évidemment, ça ne se soigne pas qu'avec des médicaments. Ça peut se soigner avec des médicaments, hein, avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs, bien sûr, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, c'est quand même normal d'être pas forcément d'être triste quand on arrive en fin de vie. On est obligé de faire le deuil de tout un tas de choses, on sait qu'on va perdre ses proches, tout ça n'est pas gai. Et puis il y a des souffrances qui sont très compliquées et qui sont il y a des choses qui sont de moins en moins supportées, je trouve. Hein, la dépendance, par exemple, la dépendance des patients, elle est de moins en moins supportée. Moi, quand je suis arrivée à Jeanne Garnier, il y a pratiquement 15 ans, la dépendance, ce n'était pas un énorme problème. J'avais l'impression que les patients supportaient mieux leur dépendance. Là, on est dans une société où l'autonomie c'est quelque chose de tellement important que les patients, ils ne supportent mais absolument plus leur dépendance. Hein. Le fait d'être grabataire dans un lit et que ça soit un autre qui vienne s'occuper de vous, vous aider pour votre toilette, qu'il soit obligé de vous soutenir si vous voulez aller au fauteuil, de vous porter même éventuellement pour faire quelques pas, enfin en tout cas de vous accompagner de très près. Il y a des patients qui ne supportent pas du tout ça, absolument pas. Donc avec ces patients, il faut essayer de... L'autonomie, hein, c'est quelque chose de... On est autonome une partie de sa vie, toute la partie du milieu de sa vie, on est autonome, mais il faut quand même réaliser qu'au début de sa vie et à la fin de sa vie, on n'est pas autonome, on est dépendant. Et bon, on a l'impression d'être autonome au milieu de sa vie, hein, mais en fait, on n'est pas autonome au milieu de sa vie. On a l'illusion d'être autonome, mais en fait, si on vous plantait tout seul dans un désert ou n'importe où, sans personne, votre autonomie, elle... Enfin, vous vous apercevriez vite que vous êtes dépendant de tout un tas de personnes. Mais bon, notre société, elle est comme ça. Hein. Elle prône l'autonomie et tout ce qui est dépendance, c'est vécu comme complètement insupportable. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de positiver et de voir avec eux ce qu'ils sont encore capables de faire. Et qui est différent pour chaque patient, hein. Mais ils sont tous encore capables de faire plein de choses. Ils ont encore plein de potentialités, vraiment tous. Hein. Ça me fait penser à une grand-mère, il y a peu de temps, là. D'habitude, elle se fichait, enfin, elle n'attachait aucune importance particulière à sa toilette et à comment on l'habillait. Et puis, il y a peu de temps, là, elle a absolument voulu... L'aide-soignante était très surprise parce qu'elle a voulu être maquillée, bien coiffée, elle a choisi sa tenue et tout, et après elle a demandé à être installée au fauteuil, tout le monde était un peu surpris, et en fait après on a appris que l'après-midi même elle recevait son petit-fils et que son petit-fils lui amenait sa fiancée, et donc elle voulait absolument donner le meilleur d'elle-même à son petit-fils et se montrer... Donc ils ont encore un élan vital et l'envie de faire plaisir. Ils ont encore beaucoup de potentialités. Ça me rappelle aussi une femme qui a peint pratiquement jusqu'à 5 ou 6 jours de son décès. Elle peignait. Donc nous, on a le devoir de leur montrer tout ce dont ils sont encore capables. Et on a aussi le devoir de trouver un espèce d'équilibre entre le réconfort et la vérité. Il faut les réconforter et aussi on a ce devoir de vérité. Alors ce qui est difficile pour eux dans le domaine psychologique, c'est d'une part la dépendance et d'autre part le sentiment de perte de dignité. On en parle beaucoup ça, de la perte de dignité. Les pro-euthanasie, ils parlent beaucoup de ça. Hein. Ils disent on veut garder notre dignité... On a le droit de mourir dans la dignité, mourir en étant dépendant comme ça, c'est indigne. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a le sentiment que les patients ont de leur propre dignité, il vient principalement de ce qu'ils lisent dans notre regard. Notre regard joue pour eux un espèce de rôle de miroir. Si nous, on leur renvoie une image positive, on les regarde avec affection, voire même avec admiration, et qu'on leur renvoie une image positive, ils ont tout à fait l'impression d'être dignes et ils n'ont aucun problème avec ce sentiment de perte de dignité. Il faut se méfier, le rôle de l'entourage est très important. Hein. Parfois, il faut parler un peu à l'entourage et insister pour que l'entourage considère ce patient, enfin leur proche, comme un vivant et pas comme quelqu'un qui est, et pas comme un mourant, voire comme quelqu'un qui est déjà mort. Moi, c'est assez difficile, mais j'ai entendu des familles qui, dans la chambre du patient, parlaient du patient au passé, comme s'il était déjà mort. Alors nous, déjà, ça nous fait mal, mais le patient, j'aime mieux pas imaginer l'effet que ça lui fait. Quand le patient entend un proche dire... Ah bah oui, il aimait beaucoup ci, ou il aimait beaucoup ça, ou je sais pas quoi. Enfin, Il faut faire attention. Hein. Alors, la souffrance spirituelle, elle existe aussi. Hein, et parce que normalement, l'équipe de soins palliatifs, elle est aussi censée prendre en charge la souffrance spirituelle. Je peux vous dire que dans les hôpitaux laïcs, là, c'est assez compliqué, hein, la gestion de la souffrance spirituelle. Moi, j'ai de la chance, je travaille dans un hôpital qui est géré par des Xavières. Il y a plusieurs religieuses Xavières qui sont médecins avec moi. Mais je sais que dans les grands hôpitaux parisiens, la prise en charge de la souffrance spirituelle, c'est un vaste sujet. Est-ce qu'on est déjà simplement capable d'y penser, de l'évoquer ? C'est même pas sûr. Hein. Je suis profondément convaincue que tout homme, qui soit chrétien ou musulman ou juif ou même totalement athée, je pense vraiment que tout homme est habité par un souffle de vie, par un souffle hein, très profond. Alors nous, on dit que c'est le souffle de l'Esprit Saint pour le croyant. Moi, je dis ça parce que j'ai la foi, mais malheureusement, tout le monde ne l'a pas. Mais en tout cas, tout le monde est traversé par un espèce de souffle et par un courant de vie intérieure. Ce désir profond, cette espèce de quête de sens, de transcendance parfois, elle s'acutise, on a l'impression qu'elle s'acutise en fin de vie et que c'est parfois à ce niveau de profondeur que le patient nous demande de le rejoindre. Alors c'est pas facile. Hein. Il y a des soignants qui sont plus doués pour ça que d'autres. À Jeanne Garnier, on a quand même un nombre relativement important de soignants qui sont qui font partie d'ordres religieux et donc elles ont souvent plus de savoir-faire, hein, de facilité. Alors, quelles sont les difficultés dans ce métier ? Ben, les difficultés, c'est essentiellement les demandes d'euthanasie, les demandes de lata. Les lata, ce sont les limitations ou arrêts de thérapie active, c'est-à-dire les arrêts de traitement, et les demandes de sédation. Les demandes de sédation, ça devient un vrai sujet avec la dernière loi, la loi Claeys-Leonetti. Les demandes d'euthanasie, on en a, Jeanne Garnier. Il faut savoir que demander à mourir, ça ne veut pas forcément dire vouloir mourir. Il y a une étude qui a été faite sur 2010-2011, je ne me souviens plus si c'est 2010-2011 ou 2011-2012, sur ces deux années, où on a reçu 2157 patients, très précisément, il y a eu 61 demandes d'euthanasie, c'est-à-dire 3%. Et sur ces 3%, ces demandes, elles n'ont persisté plus de 48 heures que pour 6 patients. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on écoute vraiment le patient, où on arrive vraiment à soulager sa douleur, où il voit qu'on s'occupe de lui, quoi, ben les demandes, elles tombent. Hein. Il n'y en a que 6 qui ont persisté plus de 48 heures, et il y en a une seule qui a persisté jusqu'au décès. Il y a une seule personne qui a réclamé une euthanasie jusqu'à son décès. En fait, c'était un danseur professionnel, et il est décédé avec... Il avait à la main une image de lui en tenue de scène, en tenue de danseur sur scène, et il n'a jamais accepté la dégradation de son aspect physique. Jusqu'au bout, il a réclamé l'euthanasie, on n'a pas réussi à faire tomber cette demande-là. Mais donc, donc même à Jeanne Garnier, on a des demandes d'euthanasie. Il ne faut pas avoir peur des demandes d'euthanasie, c'est quand même violent pour un soignant hein, de recevoir une demande d'euthanasie. Alors il faut pas être choqué, il faut pas être surpris, il faut pas être sur la défensive. Il faut écouter encore plus et essayer de comprendre ce qui est insupportable pour le patient. C'est un SOS, la demande d'euthanasie, c'est un appel au secours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est insupportable. Alors après, c'est une espèce de... Il y a un décryptage à faire. Qu'est-ce qui est insupportable pour ce patient-là ? Alors, les limitations ou arrêts des thérapies actives, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que des patients demandent des arrêts de thérapie active ? On est arrivé là parce qu'on a une médecine qui est de plus en plus technicienne, avec des techniques de plus en plus sophistiquées. Et donc, on arrive à maintenir des gens en vie dans des situations qui sont vraiment très difficiles à vivre. Et donc, il y a des patients qui, par exemple, quand ils sont dépendants de machines, la machine peut être une machine, entre guillemets, alliée pendant très longtemps. Et puis, il y a un moment où le patient, il peut décréter qu'il ne veut plus continuer sa vie comme ça, qu'il ne veut plus être dépendant d'un respirateur ou plus être dépendant d'une dialyse, et il vous demande l'arrêt du respirateur ou l'arrêt de la dialyse. Ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Alors, par chance, à Jeanne Garnier, on n'en a quasiment jamais. Moi, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une demande d'arrêt de respirateur. Ça m'est arrivé des arrêts de dialyse. J'ai reçu des patients, mais l'arrêt de dialyse, il avait été demandé avant nous, et le patient arrivait chez nous après. J'ai jamais accueilli une demande d'arrêt de dialyse ni une demande d'arrêt de ventilation artificielle. Mais c'est des situations qui arrivent, et depuis la deuxième loi Kouchner, le patient a le droit de demander un arrêt de thérapie active, et le médecin est tenu d'accepter cet arrêt de thérapie active. On n'a pas le droit d'imposer, c'est quelque chose qui est très difficile pour un soignant, hein. On n'a pas le droit d'imposer à un patient des techniques de survie, entre guillemets, qui n'est plus prêt à supporter. On en est arrivé là aussi avec les techniques de réanimation. Hein. Alors, la dernière chose qui est difficile, c'est la sédation. La sédation, ça consiste à faire dormir le malade. On utilise un médicament qui s'appelle le midazolam. C'est un anxiolytique, en fait. Hein. C'est un anxiolytique qui est très sédatif et qui a une demi-vie courte. C'est très facile de faire dormir un patient. C'est un médicament qu'on peut administrer par différentes voies. Si vous l'administrez par voie intraveineuse, le patient, il s'endort tout de suite, dans la seconde, pratiquement. Si vous l'administrez sur 3 heures, ben, le patient, il dort pendant 3-4 heures. Si vous pouvez l'administrer pendant la nuit, le patient, il dort pendant 12 heures. Il y a certains patients qui ont une souffrance insupportable, notamment psychologique, et qu'on arrive à casser qu'en les faisant dormir une ou deux journées, par exemple. On les fait dormir, par exemple, pendant 2 jours, en continuant à les hydrater, et ils se réveillent au bout de 2 jours, et au réveil, ce qui leur paraissait insupportable 2 jours avant, ça peut avoir complètement changé de densité, et ça permet de passer un cap et de continuer. Alors, ce qui pose un problème plus compliqué, c'est évidemment cette dernière loi Claeys-Leonetti, parce que la sédation, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein. Il y a 15 ans, ça existait déjà, la sédation. Il y avait des recommandations de bonnes pratiques pour faire ces sédations, qui avaient été faites par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui avaient été reconnues, acceptées par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique depuis très longtemps. Là, tout le monde se met à en parler parce que depuis la dernière loi Claeys-Leonetti, le patient, s'il a une maladie grave et en phase terminale, si son pronostic vital est engagé à court terme et s'il a une souffrance réfractaire à tous les traitements qui ont été proposés et effectués, il faut qu'il y ait ces trois choses qui soient réunies. Si tout ça est réuni, il a le droit de demander une sédation profonde jusqu'au décès. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et évidemment, parfois, ça nous met en difficulté. Par exemple, moi, là, dans le service, j'ai une patiente qui a une tumeur cérébrale. Elle m'a jamais fait... Elle a une maladie grave en phase terminale. Son pronostic n'est pas engagé à court terme. Et quand elle est arrivée, on n'avait pas tout fait encore pour la soulager. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec sa famille, parce qu'elle a 4 fils, cette femme, et notamment elle a un fils réanimateur, médecin réanimateur, et le fils médecin réanimateur, depuis 15 jours, il me met une pression terrible pour une sédation profonde jusqu'au décès. Et donc, tous les jours, il remet ça sur le tapis, et tous les jours, je suis obligée de lui expliquer que son pronostic vital n'est pas engagée, mais surtout que c'est pas ce qu'elle demande. Hein, parce que quand on pose la question à la patiente, c'est pas du tout ce qu'elle demande. Elle. Ça lui est arrivé de nous demander de la faire dormir sur quelques heures, et on l'a fait dormir sur quelques heures, quand elle a envie de faire une petite sieste ou quand elle a envie de lâcher un peu prise, on l'a fait dormir sur 3 heures, par exemple, on lui fait une injection ponctuelle de midazolam, elle dort sur 3 heures, mais elle, elle n'a jamais demandé de dormir jusqu'à son décès, et de toute façon, comme son pronostic vital n'est pas engagé à court terme, même si elle nous le demandait, on ne le ferait pas. Mais on a une grosse pression de la famille, et ça, ça arrive quand même de plus en plus souvent. Bon, voilà, moi, en gros, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut écouter, écouter, écouter. Hein, c'est le plus important. La qualité d'écoute, la qualité de présence et d'écoute est vraiment quelque chose de très important. Et il faut aussi que vous reteniez que le soulagement de la... Parce que les souffrances physiques, elles sont beaucoup mises en avant par les gens qui réclament des euthanasies, mais la souffrance physique, franchement, c'est pas très très compliqué à régler. Voilà, maintenant je suis ouverte à toutes les questions. Il y a aussi beaucoup de signes, il faut que je vous dise un tout petit mot sur l'alimentation et l'hydratation. Il y a beaucoup de questions qui tournent sur l'alimentation et l'hydratation. Alors, bien sûr qu'il faut alimenter les patients et bien sûr qu'il faut hydrater les patients. Dans l'article que j'ai écrit, vous pouvez prendre, j'ai fait un petit paragraphe sur l'alimentation et l'hydratation. Je suis évidemment pour hydrater les patients. Alors, alimenter et hydrater naturellement, hein, tant qu'ils peuvent manger et boire, évidemment, c'est la solution idéale. Il y a un moment de l'évolution de la maladie où les patients sont plus capables de manger et de boire par la bouche. Hein. Donc il faut envisager une autre solution. L'alimentation et l'hydratation artificielle, c'est très bien jusqu'à un certain point. En toute fin de vie, il y a un moment où ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Et là aussi, ça nous pose des... Enfin, ça demande beaucoup d'explications aux familles, parce que il y a beaucoup de familles qui veulent qu'on alimente et qu'on hydrate jusqu'au bout. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces apports artificiels, c'est du liquide qu'on fait passer par voie veineuse et qu'on apporte. Parfois, on apporte 2 litres. On a des patients qui arrivent parfois avec 2 ou 3 litres d'alimentation et d'hydratation artificielle. Et le cœur, c'est une pompe. Donc, le cœur, c'est un muscle, une pompe qui doit pomper tout ça, tout ce liquide artificiel qu'on lui amène. Et en toute fin de vie, le cœur, il faiblit. Et il y a un moment où il n'arrive plus du tout à pomper tous ces liquides qu'on apporte artificiellement. Et ce liquide qui n'est pas pompé, il diffuse. Ils diffusent, alors vous voyez des patients qui ont des énormes œdèmes, et puis quand ils diffusent dans les jambes, hein, le bassin, même parfois les mains et les bras, hein, les patients sont pleins d'œdèmes, et puis ils diffusent au niveau des poumons aussi. Et ça, c'est très inconfortable pour le patient. Ça fait des patients qui sont encombrés, qui ont plein de liquide dans les bronches. C'est du liquide qui n'a pas pu être pompé par le cœur. Donc il y a quand même un moment... En toute fin de vie, hein, je parle vraiment là de la toute fin de vie, où c'est plus une bonne chose d'alimenter et d'hydrater artificiellement, où il faut arrêter l'alimentation et l'hydratation artificielle. Alors on passe beaucoup de temps à expliquer ça aux familles, parce que ça aussi c'est un moment difficile pour les familles de voir que on n'alimente même plus, on n'hydrate même plus. Ça demande de passer du temps avec eux pour leur expliquer que non seulement ça a plus le bénéfice d'alimenter et d'hydrater le patient, mais qu'en plus c'est délétère, ça a plus d'inconvénients et ça fait une fin de vie qui est plus inconfortable pour le patient. Mais en général, quand on passe du temps et qu'on explique bien, les familles, elles sont intelligentes, elles comprennent. Voilà.